parasha, il y a effectivement cette mitzvah qui est donnée à Aaron. Lorsque tu allumes les Nérod, on parle ici des Nérod, la menorah, el moul pnei menorah yairu shivat hanerot, vayasken Aaron el moul pnei menorah ela hanerotea kasher tziva Hashem et Moshe, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד יריחה עד פרחה, מקשה היא כמראה אשר הראה השם. כן, donc, on parle de la fabrication de la menorah, semble-t-il, peut-être après avoir dit que Aaron allait lui... allumer les nérodes de cette menorah. Alors, je vais d'abord voir avec vous, il y a un Midrash Rabba qui dit la chose suivante. Marqué, c'est un menorah, n'est-ce pas? Vous voyez le verset d'Alet. Et dans la Torah, quand on disait, c'est qu'on montre, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Et la question se pose, ça veut dire quoi exactement que il a, c'était quelque chose de, à montrer? Parce que, en fait, c'est, dit le Midrash, Shenit Kasha, Moshe Amnora, Yoter, Mikol Klea Mishkan. Moshe Rabbeinu a eu de la difficulté avec la fabrication de l'Amnora, plus qu'il n'en a eu avec aucun autre ustensile, aucun autre meuble Mishkan. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui a montré Be'etzba, avec le doigt en quelque sorte, c'est marqué Ze Maase Amnora Mikshazav, que la menora elle était faite à partir d'un lingot, c'est pas des morceaux qu'on a mis bout à bout, des, on a soudé, etc. C'est pris dans la masse, comme il a fait. Et la question qui se pose, dit le Midrash, Makashehi la sorte. En quoi est-ce que c'est spécialement difficile? Et d'ailleurs, on voit très bien qu'à un autre endroit aussi, la Torah elle dit, elle utilise le mot Zé, qui peut c'était à Chodesh Zé Lachem, Rosh, quand Hashem a donné la première mitzvah. Israël, quand ils étaient encore en Égypte, encore esclaves, il leur a donné cette fameuse mitzvah qui va déboucher sur l'obligation de fixer, de maîtriser le temps, en quelque sorte, le temps du calendrier. Là-bas aussi, un zé. Ça veut dire que, on va voir, plus loin, dans le Midrash plus loin. Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui enseigner très précisément comment est-ce qu'on fait la menorah. Et Kadosh Baruch Hu lui a accepté et le lui a enseigné. Et il lui a même montré, sous forme d'une menorah en feu, et après tout encore, immédiatement, quand Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne, il a oublié. Donc Hachem lui a enseigné un cours particulier, en quelque sorte, sur la menorah, très clairement possible en feu. Et quand Moshe descend de Har Sinaï, après avoir reçu la Torah, donc, il descend et il a oublié. Et ça se reproduit à trois reprises, jusqu'à ce qu'il ait besoin d'en passer par... C'est Bezalel qui va le faire, en fait. Évidemment, tout ça, c'est un peu difficile. Les secrets là, qui sont là, cachés derrière ça, près de la Torah, bien entendu, ce n'est pas des choses qui sont obligatoirement à notre portée, mais comme c'est de la Torah et que bon, on va essayer de comprendre quand même, on va essayer de dire un tout petit peu quelque chose sur cette menorah. dans ce que disent les Chachamim, ils l'ont dit un peu plus. Il y a une Gemara que vous avez sûrement déjà entendu parler. La Gemara dans Menachot, qui va parler de ça aussi. La Gemara dit la chose suivante. Amar Abiyuda Amar. Donc, ce sont les Amoraïm qui parlent. Bécha'a, chez Allah Moshe Lamarom, quand Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour recevoir la Torah, Matsao la Kadosh Baruch Hu, il a trouvé que la Kadosh Baruch Hu était là, chez Yom, et il a trouvé Hachem en train d'attacher des couronnes aux lettres. Les couronnes, vous savez, c'est ces petites décorations qu'il y a sur certaines lettres dans l'écriture du Sefer Torah, cette espèce de petit chine là-haut, sur certaines lettres, ça s'appelle des couronnes. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, il lui a dit, « Mim me'akev al yadcha », c'est-à-dire, « Qui t'empêche de nous donner la Torah telle qu'elle est ?» Pourquoi est-ce que tu dois te fatiguer, en quelque sorte, à écrire des couronnes? Quand Moshe Rabbeinu s'est adressé comme ça à Hachem, pour dire la vérité, c'est qu'Hachem lui a... Et Moshe Rabbeinu a tout de suite posé une question, et sans saluer, en quelque sorte. Alors, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, il a dit, mais l'esclave a le droit d'adresser la parole à son maître. Il faut que le maître lui adresse en premier la parole. C'est pour ça que je ne me suis pas permis de dire quoi que ce soit. Enfin, sauf qu'il immédiatement... Donc, le saluer, quelque part, c'est se mettre à sa portée. Poser une question, ça montre le rapport. Il y a un rapport très clair, donc. C'est beaucoup plus acceptable. En tout cas, voilà, ce qui nous concerne. Adam Echad, Hachem a répondu à Moshe Rabbeinu, vous connaissez. Adam Echad Yesh, il y a un homme, She'atid Liyot Besof Kamadorot, qui va vivre dans quelques générations, et à qui va venir son nom, She'atid Lidrosh Alkol Kots Vekots, qui lui va être doresh, il va rendre du sens à chacun de ces petits bâtonnets là dans ces éléments de la couronne, tiletilim shel halachot, des montées de halach. Alors, via kodesh baruch hu, ribono shel olam, areoli, ribono shel olam, montre-moi cet homme. Alors Hachem lui a dit, Chazor la Horecha, retourne sur tes pas. Il l'a fait, Moshe Rabbeinu, Viachav, Besof, Shmona Shurot. Et ici, à ce qu'il a 8e rangée. Velo ya yodea mahen, Omrim. Et il ne tout ce que Rabbi Akiva et ses élèves disaient. Tachash Kocho. Il s'est senti mal, Moshe Rabbeinu. Il ne peut rien comprendre. Quand Rabbi Akiva est arrivé dans sa discussion avec ses élèves, les Davar Echad, à un certain sujet, Amroulo, les élèves ont dit à Rabbi Akiva, où est-ce que tu sais ce que tu nous dis là? Amarlaem, alachal Moshe Misinaï. C'est une halakha de Moshe Misinaï que je vous dis là. Ikashva d'Ato. Moshe Rabbeinu a retrouvé son équilibre en quelque sorte. Tout chat de Moshe et la suite, et ensuite pourquoi il s'est tout à coup remis de cette faiblesse. Évidemment, il faut l'expliquer. Qu'est-ce qui a affaibli Moshe et qu'est-ce qui lui a rendu quelque sorte? si c'est parce que vous ne comprenez pas la fonction de ces couronnes sur les lettres, et à quoi elles servent. Donc, quand il a vu la robe tellement puissante, profonde, qui va en attirer, alors ça, c'est ça qui lui, c'est ça qui lui aurait en fait causé ce malaise. Alors, en quoi est-ce que ça s'arrange quand Rabbi Akiva répond à la fin de Moshe Mitzinaï? Et de plus, peut-être Moshe être d'Oresh, c'est à la faute que Rabbi Akiva a exposé. Mais les Rachamim ont déjà expliqué très clairement que Kol Ma chez Talmid Vatik, l'Ifnerev, l'élève, va être capable de dire devant son maître ces choses-là. Nemrou le Moshe Mitzinaï. Tout ça, ça a été déjà donné à Moshe au Sinaï. Alors, on peut se souvenir un enseignement ici du Briskerov au nom de son grand-père, le Bétalévi. Venez à Macha. C'est en fait dans un autre contexte, mais ça peut nous aider ici. Ou donner à comprendre un peu ce qui se joue ici et ce qui est décrit ici. Le machal que le Beit HaLevi avait utilisé, c'est le suivant. Il s'agit d'un aveugle et d'un voyant, enfin d'un quelqu'un qui voit, un voyant et un non-voyant, qui se trouve dans une chambre du palais. Et l'aveugle veut sortir, commence à toucher avec ses doigts pour trouver la porte. Jusqu'au moment où tout à coup, avec ses doigts, il comprend qu'il y a une porte, une large porte. Et bon, là, il voit qu'il peut passer, ça peut s'ouvrir. Il passe. Après avoir, il se rend compte qu'en réalité, il est en train de prendre un chemin qui va l'amener sur le toit de la maison. Alors, il revient sur ses pas, il revient dans la pièce et il continue de toucher les murs. Au bout d'un certain moment, il trouve une porte un peu plus petite et qui s'ouvre bien. Et quand il regarde un peu plus près, il est obligé de voir qu'en fait, il s'agit en réalité quasiment d'un réduit d'une armoire. Bon, il continue et il trouve une porte très étroite, enfin plus étroite. Et là, si c'est pas simplement un réduit, c'est une véritable armoire. Une armoire qui est l'armoire dans le mur. Alors bon, il perd un peu espoir et il demande à son compagnon qui lui le voit, pas aveugle, lui dit, ben, aide-moi. Alors son compagnon le prend par la main et l'amène à son... un tout petit couloir très étroit. Il y a juste la place pour un homme de passer là. Et puis, voilà, il s'avère que, au bout de ce couloir, ils sont à la lumière du jour. Ils sont sortis du palais. Alors, mais je comprends pas. Large porte, et c'était pas une sortie. Et là, maintenant, tu as pris cette toute petite ouverture, et c'est ça la sortie. Mais comment as-tu pu penser que c'était une sortie? pourquoi c'est justement cette plus petite ouverture qui est la sortie, celle qui mène vraiment à l'extérieur. Le compagnon lui dit, voilà, toi ta force est dans le toucher. Alors, effectivement, la chose te paraît étrange, mais moi je vois, et j'ai été, mes sens m'ont dit, c'est-à-dire j'ai vu, que c'est effectivement très, très étonnant, que c'est justement cette petite ouverture, l'ouverture de la sortie. Ça veut dire, toi tu es équipé d'une grande capacité de deviner les choses par le toucher. Mais effectivement, tu peux pas trouver trouver une explication à ton étonnement. Mais moi, étant donné que je peux me promener un peu librement dans le palais, et j'ai un peu regardé l'architecture générale de ce palais, alors j'ai compris qu'on pouvait penser que une réponse à la question que tu poses, et comme elle vient du regard global que j'ai pu poser sur le palais, et j'ai compris que ça ne pouvait être qu'une toute petite ouverture qui venait à l'extérieur du palais. Ça, c'est la grande différence, qu'il y a entre la Torah de Moshe Rabbeinu et la Torah de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, effectivement, il est d'Oresh, il rend significatif ces petites couronnes. La Gemara, elle dit que Shloshet alafim alachot nishtakhu be'velo shel Moshe. Vous vous souvenez, au moment où Moshe Rabbeinu a compris qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, il a dit à Yoshua, pose-moi toutes les questions. Je vais mettre les questions. Et Yoshua a répondu, mais tu as écrit toi-même dans la Torah, je n'ai pas quitté le Beit HaMidrash. Donc je n'ai pas de questions. J'étais tout le temps là. Alors il a pas manqué, évidemment. Moshe a disparu et Yoshua a oublié. Les gens ont dit à Yoshua, pose tes questions à Hachem, comme Moshe le faisait.
L'enterrement de Samy, c'est demain, pour moi. 11h.
Donc, il lui a dit, j'ai essayé, et la réponse était, l'Oba Shamaimi, la Torah n'est plus au ciel. Amar Rabbi Abaou, Afal Piken, Irzira Notnien Ben Knaz, Mitor Pipulo. Alors, c'est vrai, la Torah n'était plus au ciel, mais on n'a pas complètement perdu, c'est à la faute, parce que Otniel Ben Kenaz a été capable de reconstruire toutes ces halakhot, son réseau du texte restant, quelque de ce qu'on avait comme autre halakhot, et des règles d'herméneutique et autres, etc. Ça veut dire, la Torah de Moshe Rabbeinu, c'était une Torah absolument claire. Une Torah dans laquelle il n'y avait pas de doute. Et quand il avait les clés et il pouvait répondre aux gens, Amdou, attendez, restez là. Veshma, Marit Sabe Hashem Lachem. Et je vais demander, vous devez écouter ce qu'Hashem vous donne. J'installais à la disparition de Moshe, on n'a plus les clés. C'est-à-dire, on ne peut plus savoir ce qu'il en est en interrogeant directement Hachem sur ce que dit la Torah. Mais maintenant, les choses passent par Yegiat Pilpul par un poule le travail sur pour trouver ces halakhot. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin donc des couronnes sur les lettres. Rabbi Akiva, lui, il en a besoin. Il en a besoin parce que c'est on lui sert dans le chemin qui est le sien pour arriver à comprendre la Torah. Donc maintenant, on peut utiliser en quelque sorte ce qu'on vient de voir. La paracha qui est écrite dans la Torah, elle est absolument claire. Lui, il n'a pas besoin de grands efforts, de pilpoul, etc. Immédiatement, il lit dans la Torah et il comprend. C'est-à-dire, il voit, comme dans notre exemple, lui, il voit la Torah. Il voit tout ça, ça lui devant lui, c'est lumineux. Il voit les sorties, il voit les entrées, etc. Il voit les passages. Donc, il n'a pas de doute. Il n'y a pas de questions, etc. Parce que, avec ses yeux, il voit tout. Donc, son chemin est clair. Il sait où il faut aller. Celui qui est affaibli, celui qui ne voit plus aussi bien, lui, il a besoin de façon nécessaire, il a vraiment besoin de quelque chose de très puissant, quelque chose qui l'aide. D'abord, il a besoin de toucher, il a besoin de faire des hakirot, il a besoin de faire des correspondants, tout ce bilpou de la halakha. Ça, c'est effectivement tout le travail pour essayer de toucher un peu partout dans la Torah. Tout ça, c'est oulai, oulai vers oulai. Ça veut dire, avec ce système, on n'est pas sûr de trouver. Si c'est pas, lui, il a trouvé des ouvertures, mais ce n'était pas les bonnes ouvertures. Parce qu'on n'est pas sûr, on ne peut pas savoir si on en est réduit au toucher, si on veut. Si on n'a pas la vision complète, alors on ne peut pas être certain, on est obligé d'avancer, d'essayer, et puis jusqu'à ce qu'on soit plus clair, en quelque sorte. Et donc la question qui se pose, si vous voulez bien sûr, c'est quelle est la différence entre voir et toucher? Donc, notre machal, notre parabole ici dans les replis de Machal, d'autres choses à l'aveugle, c'est vrai que il lui manque un des sens, il a perdu la vue. Et bien entendu, c'est un handicap. Quelque chose qui ne lui permet pas de voir les choses que celui qui l'a vu peut constater d'un seul coup d'œil. Et d'un autre côté, il a en lui un développement justement de ce sens du toucher qui est bien plus développé chez lui que chez... Et par conséquent, il a, lui, par le koach hamishush, sa capacité, le sens du toucher, il est très développé chez lui. Il peut faire des choses que celui qui voit ne peut pas imaginer. Si on avait fermé les yeux pour un certain temps, à celui qui voit, pratiquement que lui, il trouverait rien du tout. Vous comprenez? Il trouverait même pas une ouverture. Même la porte de l'armoire, il la trouverait pas. Et, étant donné que lui, il a à sa disposition la vue, alors, pour lui, les choses sont claires. Donc, il n'a pas besoin de ce dont a besoin l'aveugle, évidemment. Ça veut dire que la puissance, c'est-à-dire c'est un sens qui est devenu très riche, qui est, il y a une finesse dans sa, dans son toucher, une sensibilité au bout de ses doigts. C'est quelque chose d'analogue à la puissance du pile-poule de la, qui est quelque chose de très riche, qui permet de faire des analyses très, très puissantes. Mais il lui manque un regard global, un regard qui puisse embraser. Il est très touché, hein, il est très attaché aux touches. Il lui manque justement cette clarté de la vision. C'est ce qui est donc le propre de sens de la vision. Donc nous, on peut réfléchir et dire avec ce que nous sommes capables de comprendre, on peut essayer de se représenter ce qui s'est passé à Matan Torah. La différence qu'il y a entre la Kabbalat HaTorah, Moshe Rabbeinu, Ayam Emna, le berger fidèle, Rabbi Akiva, qui est lui, Doresh, qui très haute yot. C'est le même moment, c'est-à-dire que au moment où Moshe Rabbeinu, si vous voulez, il reçoit la Torah, à ce moment-là, quand je vous mets en place les couronnes pour Rabbi Akiva. Rabbeinu, c'est Ouroé, il voit. Il représente concrètement celui dont il dira lui-même, il est Anori Omed Ben Hashem ou Ben Echem. Je suis debout, dit mon cher Rabbeinu, entre Hashem et vous. Kolma Shetalmid Vatik Atik. Donc tous les temps, tout ce qu'un élève va dire devant son maître, tout ça, Moshe Rabbeinu l'a reçu au Sinaï. La Torah tout entière, elle était claire. Et les chemins de la Torah, il les voyait tout à fait distinctement. Et il n'y avait pas de chidouche dans la Torah qui lui a échappé. Que il y a absolument la vue parfaite qu'il avait ne prenait pas en compte. À l'inverse, Rabbi Akiva, donc celui qui est et Doresh, les fameuses couronnes de Torah, lui, il est plutôt du côté dans le majesté du toucher. Lui, il a besoin des couronnes. Pourquoi? Parce que ces couronnes vont l'aider à avancer dans un chemin qui n'est pas balisé du tout. Mais du coup, Moshe Rabbeinu, à l'inverse, il voit à la fois clair, directement à partir du texte, il n'a pas besoin de couronne pour ça. Il n'a pas besoin d'éléments qui vont le guider. Donc, on est obligé de dire la chose suivante, les voir et sur Rabbi Akiva, on dit il faut l'aider à développer sa capacité, son sens du toucher, entre guillemets. Aller jusqu'au bout de ce que le toucher peut donner. Chez Moshe Rabbeinu, elle est posée devant lui en quelque sorte. C'est tout à fait clair. Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de tout ça. Mais il n'a pas la finesse du toucher. Et donc, sa capacité d'analyser, on peut parler comme ça, quelque chose comme du droit, ça n'a pas d'intérêt. C'est un autre aspect, c'est un autre chemin pour y arriver. Mais c'est le chemin au sujet duquel on a dit « Chacham adif minavi ». Le chemin de Moshe Rabbeinu, c'est le chemin du Navi. Le Chacham est adif minavi. Le Chacham est plus que la cet enseignement-là est surprenant, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, il comprend pas, c'est pour ça qu'il a introduit Hachem. Il comprend pas. Il y a la Torah pour qu'elle soit compréhensible. Il dit, mais pourquoi tu ne nous donnes pas la Torah dans l'état dans lequel elle est? Est-ce que tu as besoin d'y mettre des couronnes? Par conséquent, il n'a pas non plus la capacité de comprendre ce à quoi on peut couronne. Et donc, le chemin d'être Doresh, c'était pas son chemin à lui. C'est pas le chemin de Moshe Rabbeinu. Et quand il est à la yeshiva de Rabbi Akiva, au tout début, où il est donc à la fameuse 8e rangée, c'est la rangée. Quand il entend, il essaie de comprendre ce dont parle Rabbi Akiva. Il comprend bien que il est en train de faire ce qu'il sait faire en quelque sorte. Mais là, il est complètement, il a un malaise. Et en quelque sorte, il est comme à ne pas comprendre ce qui se joue. Mais maintenant, quand les élèves demandent à Rabbi Akiva, Rebbi, Zou minayin lecha, ce que tu nous dis là, d'où est-ce que tu le tiens? Il leur répond, c'est Alacha le Moshe Mitsinaï. Alors, Moshe Rabbeinu comprend le sot de la chose. Il comprend que toute la discussion qu'il y avait dans ce pilpoul tellement profond, la richesse de la discussion, une espèce de buisson dans lequel toutes les idées ont été jetées, ont été discutées. Tout ça, ça n'avait pour but que d'arriver, de clarifier exactement ce qu'était la halakha, comme elle lui a été dite directement à lui, Moshe. Ça, c'est d'arriver au degré où le toucher, en quelque sorte, toucher vraiment les choses, c'est-à-dire les toucher complètement, d'être capable de les comprendre complètement, comme on peut le faire avec la vision. Donc il a compris qu'il ne lui manquait rien à, Moshe, à lui, Moshe. Parce que lui, il ne procédait pas de la même manière que Rabbi Akiva. C'était le chemin de la drisha, du d'oresh, de solliciter. Différent. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il était apaisé. D'accord. Il a compris que c'est pas que je comprends pas. C'est que eux attrapent la chose d'une autre manière. Mais en fait, ils n'arrivent qu'à ce que moi-même, j'ai compris à ma manière. Ce sont des paroles absolument claires. D'accord, je vois au cours. C'est une lumière qui vient d'en haut. Les êtres humains n'ont rien à voir avec la fabrication de cette lumière-là. Il n'était que le canal par lequel la transmission de l'enseignement d'Hachem au Bnei Israël passait. Donc, il amène la parole divine au Bnei Israël. Comme il l'a dit, Anochi omed ben Hachem ou benechem. Je suis entre le lien, le canal par lequel cet enseignement va passer. Pour cela, on n'a pas besoin du tout d'autre chose que d'une vision parfaite. Il s'agit de ne pas déformer du tout, de laisser, de transmettre exactement ce qu'on... D'autre part, on pourrait dire, dans la transmission de Moshe Rabbeinu, il n'y a aucun bruit, aucun parasite. L'écoute de la Torah chez Balpé, bien sûr, bien entendu, il s'agit de comprendre à fond les choses qui sont bien dites très clairement dans la Torah chez Balpé, les éclairer de chemin pour la compréhension humaine de cette lumière-là. Elle provient du travail des hommes. Ce sont les hommes qui doivent faire ce travail. La Torah chez Balpé, elle est très difficile à étudier. Ça implique souvent une chance, parce que cette Torah-là, en fait, cette Torah, elle est, dans le Midrash, elle est appelée, Rocher, c'est, on est, en Babli, tabou de Babli, c'est, Rocher, c'est, il faut être équipé de, justement, du toucher, dans notre image, pour effectivement arriver de cette obscurité. Et quand il s'est rendu compte que il était dans ce processus-là quand il était à l'école de Rabbi Akiva. Et lui, il n'était pas équipé du tout pour ça. C'est ça, Tachash Koro Shel Moshe. Moshe, il s'est senti mal. Et je comprends rien, ça. La Mishnah, hein, qu'il y avait dans le Beit HaMikdash, elle fait référence à la Torah, bien sûr. Chazal disent, Arotel Arkim Yarim, Yadrim, celui qui veut travailler sur la sagesse, il faut qu'il se tourne un peu plus vers le sud, c'est-à-dire là où était la menorah. Parce que la menorah était Badaron. Et quand on y regarde un peu plus près, dans ce que Chazal dit, dans la paracha, on voit que, d'une certaine manière, la menorah, elle exprime la Torah chez Balpé, en fait. Elle représente vraiment bien la Torah chez Balpé. Marqué dans le Midrash, Amrou Israël, l'Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Ta Omer, Shenayir Lefanecha, tu nous dis que nous devons éclairer devant toi, les Bnei Israël doivent éclairer le Beth Amikdash, Ata ou Or, tu mets le Oro Shelam, tu es la lumière du monde. Et la lumière d'Ara Etzlecha, la lumière, elle habite chez toi, c'est toi la lumière. Maintenant tu nous dis, El Moul Pneam Nora Yairu Shivata Nerot, tu dis, on a besoin de lumière de cette noix, de cette Nerot. Amar Lehem HaKadosh Baruch Hu, même, c'est pas besoin de vous. Et là, chez Tahiru Li, chez Derer, chez Arti Lachem, je veux que vous m'éclairiez comme moi je vous ai éclairé. Alors, on va y revenir. Dans l'allumage des nérotes, c'est pas le travail essentiel, c'est d'ailleurs pas du tout allumer. C'est nettoyer les supports dans lesquels on va mettre l'huile et dans lesquels on va allumer. C'est-à-dire ça, ça correspond à Tosefet, au supplément de lumière que les Bnei Israël peut parler comme ça devant un Kadosh Baruch Hu. Cette lumière, She'en Kacher La Alota, cette lumière que seuls les hommes peuvent allumer, et que, en fait, il faut travailler pour arriver à l'allumer, pour sortir cette lumière de l'obscurité. C'est ce qu'on appelle Or Shivat Hayamim, la fameuse lumière des sept jours, la Kadosh Baruch Hu a mise de côté. Lors des sept jours de la création, il a mise dans la Torah cette lumière. Il ne voulait pas que tout le monde puisse en profiter, donc il l'a retiré de la circulation et il l'a mise dans la Torah chez Balpé. Ça veut dire que ça ne sert, cette lumière, elle ne sert que développer. Et de la même manière, puisque le Midrash a mis les deux choses en correspondance, le Kiddush HaChodesh, de la Chodesh HaZelachem, là aussi on a dit Zé, mais aussi il exprime partout la puissance des femmes dans leur capacité justement d'être mechadesh. Atem afilu shogegim, atem afilu mut'im, atem afilu mezidim. Vous connaissez cet enseignement? C'est l'enseignement qui a été donné. Il y avait une grande discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua était probablement plus grand en Torah que Rabban Gamliel, mais Rabban Gamliel était lui le boss. Et dans le courant de tout ce qui les a opposés, c'était fixation d'un Rosh Chodesh. Discussion entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel a ordonné à Rabbi Yoshua de venir le voir le jour qui, d'après lui, Rabbi Yoshua, je veux te voir avec, tu viens avec ton sac et tes affaires. Et Rabbi Yoshua, il était désespéré. Rabban Gamliel avait fixé Rosh Chodesh, et bon, c'est pas ce qui lui correspondait. Alors lui, il aurait pu rester de son côté, faire Yom Kippour chez lui dans sa maison. Mais là, il pouvait pas. Rabban Gamliel l'a obligé à venir chez lui. Alors il a raconté à Kivan, Les autres amis des Chachamim, ils lui ont dit, écoute, la Torah, elle nous a dit que c'est nous qui fixions, le Beit Din fixe. Et le Beit Din, il fixe le nouveau mois, et c'est ce qu'on vient de voir, Atem Afilu Shogegim. Même si le Beit Din se trompe, c'est ce qui fait foi, en quelque sorte, ce qui va rester, c'est le jour fixé par le Beit Din. Même si vous vous trompez, c'est aussi, c'est pas seulement par inadvertance, c'est même si vous êtes tout à fait conscient que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire en vérité, mais vous décidez que pour des raisons qui sont les vôtres, vous décidez de fixer le Rosh Chodesh. C'est ça, vous êtes, le Beit Din est souverain. C'est-à-dire que finalement, on ne s'occupe pas immensément de la lune, etc., pour le faire au plus. Non, c'est la décision. Et ça a apaisé Rabbi Yoshua, effectivement. Donc ici aussi, la Torah Shebaalpé, la puissance de la Torah Shebaalpé, la puissance du Beit Din, qui va décider du calendrier, en quelque sorte, contre le témoignage d'elle-même, dit autre chose. Ça, c'est la puissance de la Torah, Shebaalpé. Ça veut dire que tout ça, ça n'existait pas chez Moshe. Tout ça, ça a été, en quelque sorte, pris à Moshe. On comprend très bien pourquoi Moshe Rabbeinu avait du mal pendant la menorah ou dans le Kodesh, parce que c'est pas du tout son style. C'est pas du tout comme ça que lui fonctionnait. Et tout particulièrement dans ces situations-là, plus que dans le reste de la Torah, au point que pour le Kiddush HaKodesh, Moshe Rabbeinu a eu besoin de l'aide. Ouais, il a eu le besoin de l'aide de Bezalel. Donc on voit très bien ce que représentait justement cet enseignement de la menorah par opposition à l'enseignement de Rabbi Akiva. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit de deux voies complètement distinctes. Ces deux voies, celle de Moshe Rabbeinu, qui était la voie dont on avait besoin, on avait besoin de cette liaison directe, et puis un jour Hachem a décidé que non, c'est terminé. Maintenant, les Bnei Israël doivent se débrouiller tout seuls, pas seulement, il ne s'agit pas de remplacer Moshe Rabbeinu, il faut prendre un autre chemin, le chemin de la Torah Shebaalpé. Maintenant, on est sorti du chemin de la Torah. Cette paracha de Baalotcha, elle parle encore du chemin du désert, c'est-à-dire du chemin où effectivement on a la chance d'avoir Moshe Rabbeinu, qui durant tout le Sefer ici va continuer de transmettre directement l'enseignement d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu lui donne ici une tâche avec laquelle il a du mal, pour les raisons qu'on vient de voir. Ce que je vous ai apporté ici, c'est justement pour que vous compreniez pourquoi, effectivement, c'était tellement difficile pour Moshe Rabbeinu de faire la menorah que de faire les Kruvim sur le Haron. Là aussi, c'était, il fallait prendre d'or du couvercle du Haron pour en faire les Kruvim. Là aussi, il faut faire dans la masse pour, avec ça, arriver à faire les prachim, les fleurs, les boutons, etc., qu'il y a dans les différentes parties de la menorah. Et c'est pas cette technique-là qui dérangeait. C'est ce que représente la menorah. Alors, une fois que cette paracha-là est dite, d'entrer dans Parashat Baalotcha. La Torah, elle nous entraîne sur évidemment sur d'autres choses ici. Alors, il faut prendre les Nevi'im, il faut les purifier des manières possibles, effectivement. Et voilà, et ensuite tu vas, il faut les mettre en service en quelque sorte. Donc pour ce faire, il va falloir prendre les Nevi'im, il va falloir les raser, voir la Torah de Moshe Rabbeinu comme potentiel. Et la Torah de Moshe Rabbeinu, elle est actualisée, elle était là. Elle était là réellement, pas simplement de potentialité, et comme si ce que Rabbi Akiva allait faire, c'est effectivement la faire passer réellement l'actualiser réellement, ce qu'elle n'était pas. Elle est actualisée, c'est ce qu'on a dit. Tout ce qu'un élève allait dire a été dit à Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire, c'est pas seulement potentiel. Et on dit que l'histoire était terminée au Sinaï, comme on l'a dit sur Adam Arishon, que si Adam Arishon avait attendu de manger c'est le fruit de cet arbre-là jusqu'à Shabbat, c'est-à-dire quelques minutes encore, il n'y avait pas d'histoire. Parce que si le but de l'exercice, c'est que l'homme reconnaisse Hachem comme roi du monde, c'est ça qu'on veut, eh bien, acceptant au Sinaï, ça vaut complètement, on n'a pas besoin d'en faire plus, si vous voulez. Que vous compreniez bien. Quand Moshe Rabbeinu était au Sinaï, mais au moment du miracle, Hachem lui a dit, après il lui a dit, tu sais, je veux que tu ailles libérer les Bnei Israël, etc. Et la preuve que ce que je te dis est vrai, etc., c'est que ta avdou et ta Elohim à la harazé. Vous allez servir Hachem sur cette montagne, sur ce Sinaï. Or, jamais les Israël n'ont vraiment servi Hachem sur cette montagne. Mais l'acceptation, accepter, c'est comme servir complètement. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin d'en faire plus. C'était ce qu'Hachem voulait. C'eût été, si vous voulez, le cas échéant, si c'était fait comme ça, c'était ce Hachem voulait, et on a fait pendant ce laps de temps, si vous voulez, entre Matan Torah, et voilà, on était revenu à la fête, et donc si on était en train de manger les choses, le fruit de l'arbre au bon moment, quelque part. Sauf que, de nouveau, on a eu un problème avec le temps, le monde a toujours un problème avec le temps, que ce soit d'attendre les quelques minutes jusqu'à Shabbat ou d'attendre ces fameuses 6 heures là, c'est vrai que c'était le piège là-dedans. Elles sont tombées. Du coup, ça ne s'est pas fait que de la même manière que parce que Adam n'a pas fait le job, alors c'est l'humanité tout entière qui a dû le faire. Et c'est parce que, effectivement, cette génération n'a pas fait le job, quand finalement il a fallu il faut que toutes les générations qui suivent fasse le job, mais c'est pas un problème d'actualisation de quelque chose qui ne serait que potentiel. C'est déjà actualisé, si vous voulez. C'est plutôt comme quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Quand Akadosh Baruch Hu a donné les Aseret HaDibrot, commence à l'Ochi Hashem Elokecha, comme tout le monde sait. En vérité, il y a un pasouk juste avant. Un pasouk dans lequel il est dit que Akadosh Baruch Hu tout à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles en même temps. Ce que Rashi explique, que personne ne peut faire ça et personne ne peut entendre cela. Alors à quoi ça sert qu'Hachem dise les 10 paroles en même temps, si de toute manière on n'est pas capable de les entendre et qu'après il va falloir de toute façon les déployer? C'est pour qu'on vienne que ces 10 paroles qui peuvent apparaître comme 10 mitzvot, si vous voulez, séparées les unes des autres, ne forment qu'une seule et même entité. Ce sont plutôt 10 facettes de la même chose. Il n'y a qu'une seule chose. Ça veut dire on ne peut pas faire son marché dans les 10 commandements. Alors, ces chrétiens, ils parlent des 10 commandements, mais ils les ont assaisonnés à leur propre sauce. Ils ont enlevé ce qui les dérangeait, ils ont mis autre chose à la place. Ils font comme si c'était ça les 10 commandements, mais ça n'a rien à voir avec la Aseret HaDibrot. Et la déclaration des droits de l'homme, c'est la même chose. Ils ont fait leur marché là-dedans. Ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils ont enlevé ce qu'ils voulaient, ils ont mis d'autres choses. Mais c'est pas simplement qu'il fallait pas mettre d'autres choses à la place, c'est qu'ils n'ont pas compris du tout qu'en fait c'était une seule et même chose. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est que les Bnei Israël n'ont pas entendu la totalité, si vous voulez, de la voix d'Hachem. Parce que ça a perdu justement le caractère un de ces Aseret HaDibrot, en fait. De la même manière que les Aseret HaMa'amarot, que les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé, en fait, c'est une seule parole qui se déploie. Alors, un bandit, la création à partir de rien, comme on dit, Yeshmeraï, ça n'a eu lieu que au premier instant. Après, c'est une mise en place. C'est plus Yeshmeraï, c'est Yeshmeyesh par la suite. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire seulement en réponse à ce que vous dites, c'est que on a eu besoin, c'était pas nécessaire, si vous voulez. Quand je dis que c'est deux voix qui sont toutes les deux suffisantes. La voix de Moshe Rabbeinu était suffisante. Si on avait fait le job, c'était fait, c'était terminé, comme vous l'avez rappelé, effectivement, au Sinaï. Si on avait accepté, avec l'acceptation, c'est comme si on avait Kavdu et Elohim Barazé, on a servi Hachem sur cette montagne par l'acceptation, c'est-à-dire qu'on a reconnu que Hachem ou Melech, etc. Au Sinaï, seulement ça n'a pas tenu. On a toujours un problème de la durée. Ça n'a pas tenu tout de suite après. De même qu'ils avaient reconnu Vayamidu Bachem ou Moshe Ardo, et puis quelques jours après, par la suite, on voit très bien que le Remouna est parti, elle a disparu. C'est un problème de durée. On a tous pris de toutes sortes de résolutions à Neila, à Yom Kippour, et bon, c'est toujours que tout le monde a Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il lui a dit, il y a quelqu'un qui va venir. Et c'est-à-dire que si, effectivement, ce quelqu'un, il lui a dévoilé, en quelque sorte, comme s'il lui avait dit, bon, ça va rater, quoi. Tu es là maintenant au Sinaï, mais tu vas devoir descendre, parce que les Bnei Israël, ils vont faire le veau d'or. Et donc, il y aura effectivement, quand vous ajoutez des couronnes, c'est pas que quand il a écrit, il a tout de suite mis les couronnes. Vous voyez? Les couronnes, il les a rajoutées comme si, c'est bien un rajout. C'est un rajout nécessaire parce qu'effectivement, la Torah de Moshe Rabbeinu était complète, mais comme on va se casser la figure, eh bien, il va falloir une salutation qui va permettre aux Bnei Israël de s'y retrouver, en particulier à Rabbi Akiva, de pouvoir retrouver les choses qui sont maintenant à retrouver, y compris la halakhot, le Moshe Mitsinaï, etc. Voilà, c'est ça la puissance de Rabbi Akiva, mais il est obligé de le faire parce qu'on s'est cassé la figure. Mais c'était pas nécessaire de se casser la figure.
Moshe Rabbeinu a posé la question.
On était arrivé au but. Seulement, on n'a pas eu la durée. C'est tout. On n'a pas eu la durée, c'est tout. C'est ça qui a fait qu'il n'a pas marché. On est arrivé au but. C'est sûr. Mais, voilà, ça n'a pas marché. Il fallait un petit peu de durée. On n'a pas eu. On n'a pas été capable. Voilà, c'est ça que la différence de Rabbi Akiva, il est, bien sûr, le problème c'est, nous, depuis là où nous sommes, nous qui sommes dans l'après-Moshe, dans le monde de Rabbi Akiva, on n'est pas dans le monde de Moshe Rabbeinu. On n'est plus dans le monde de Moshe Rabbeinu. on n'a plus la possibilité d'interroger Hachem. C'est fini, c'est fermé. Tant que c'est fermé. Donc, c'était un autre type de relation avec Hachem, si vous voulez. La relation, comme dans le machal du Beit HaLevi, c'était la relation de la vision. On voit, il y avait cette vision globale de Moshe Rabbeinu, et c'est ça le grand problème d'avoir quelqu'un qui est capable de revoir les choses de plus haut, de... Alors, il va dire des choses plus actuelles, bien qu'elles soient encore loin de nous, c'est le Gaon de Vilna qui effectivement dit que tous les changements qu'il a fait, tout ce qu'il est, toutes les nusraot, etc., il ne l'a fait que après avoir vérifié que ça, c'était cohérent avec toute la Torah, comme il connaissait tout. Et donc, il pouvait voir que c'était cohérent avec toute la Torah. C'est ça, il faut avoir cette vision totale. Et bien entendu, ça n'a rien à voir, probablement, tout ça, avec la vision totale de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de bruit. Nous, que ce soit le Gaon de Vilna ou Rabbi Akiva, etc., on vit dans un monde où il y a du bruit. Il y a des difficultés. Il y a une yéguia, il faut bosser. Vraiment. Arriver à quoi que Rabbi Akiva, n'oubliez pas à combien de temps il a dû bosser. Je veux dire, pour arriver à être Rabbi Akiva. Il n'est pas né comme ça. Quel effort ça a fallu, ça lui a demandé à lui, ça a demandé à sa femme, etc. Tout ça, c'est... Et puis ensuite, et les souffrances que ça a dû représenter, imaginez, quand tous ses élèves sont morts, qu'il a fallu recommencer, mais il a eu la force de recommencer avec les maîtres du Sud, quoi, les cinq élèves à partir desquels on a toute la Torah de Rabbi Akiva. Mais imaginez tout ce qu'il avait et tout ce qu'il a perdu. Tout ça, c'est des efforts gigantesques. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'on a, comme de la Torah. Mais, si vous voulez, tout ça, c'est parce que on n'a pas eu la durée, on n'a pas été capable de profiter, si vous voulez, de Moshe Rabbeinu, en quelque sorte. On pouvait vivre les choses de cette manière-là, maintenant. Je voulais juste corriger, je crois que c'est une erreur de penser que c'est seulement une potentialité. La Torah, elle était complète, elle n'avait pas besoin de plus d'actualisation que celle qu'elle a eue au Sinaï. Simplement, il fallait un peu de durée, on n'a pas eu la durée. Entendu, mon cher Aminou, c'est terminé probablement. Voilà ce que je voulais dire.